Chapitre 3. Demeuré seul dans la maison silencieuse, Robert de Ligny ralluma la lampe. Il commençait à entendre des voix graves et même un peu solennelles qui parlaient au-dedans de lui. Formé dès l'enfance aux règles de la responsabilité morale, il éprouvait un regret douloureux qui ressemblait à un remords. Songeant qu'il avait causé la mort de cet homme, bien que c'eût été sans le vouloir et sans le savoir, il ne se sentait pas tout à fait innocent. Des lambeaux d'enseignements philosophiques et religieux revenaient troubler sa conscience. Des phrases de moralistes et de sermonnaires apprises au collège et tombées tout au fond de sa mémoire lui remontaient subitement à la pensée. Ses voix intérieures les lui récitaient. Elle disait, d'après quelques vieils orateurs sacrés, « En se livrant au désordre, les moins coupables dans l'opinion du monde, on s'expose à commettre les actes les plus condamnables. Nous voyons, par d'effroyables exemples, que la volupté conduit au crime. » Ces maximes, sur lesquelles il n'avait jamais réfléchi, prenaient pour lui tout à coup un sens précis et rigoureux. Il y songea sérieusement. Mais, parce qu'il n'avait pas l'esprit profondément religieux et qu'il n'était pas capable de nourrir des scrupules exagérés, il n'en conçut qu'une édification médiocre et sans cesse décroissante. Bientôt, il les jugea importunes et sans application possible à sa situation. En se livrant aux désordres les moins coupables dans l'opinion du monde, nous voyons par d'effroyables exemples ces phrases qui tout à l'heure retentissaient dans son âme comme un grondement de tonnerre, il les percevait maintenant dans les nasillements et les grasseillements des professeurs et des prêtres qui lui avaient apprises, et il les trouvait un peu ridicules. Par une naturelle association d'idées, il se rappela un passage d'une vieille histoire romaine qu'il avait lue en seconde pendant une étude et qu'il avait frappé. Quelques lignes sur une dame convaincue d'adultère et accusée d'avoir mis le feu à Rome. Tant il est vrai, disait l'historien, qu'une personne qui trahit la pudeur est capable de tous les crimes. À ce souvenir, il sourit intérieurement et pensa que les moralistes avaient tout de même de drôles d'idées sur la vie. La mèche qui charbonnait éclairait mal. Il ne parvenait pas à la moucher et il répandait une infecte odeur de pétrole. Songeant à l'auteur de la phrase sur la dame romaine, il se disait « Ouais, celui-là, il en avait une couche !» Il était rassuré sur son innocence. Ses légers remords s'étaient entièrement dissipés et il ne concevait pas qu'il eût pu se croire à un moment responsable de la mort de chevalier. Toutefois, cette affaire l'ennuyait. Subitement, il pensa, et s'il vivait encore? Tout à l'heure, l'espace d'une seconde, à la lueur d'une allumette soufflée aussitôt qu'éprise, il avait vu le crâne troué du comédien. Mais s'il avait mal vu? Et s'il avait pris pour un ravage de la cervelle et du crâne une déchirure de la peau? Garde-t-on le jugement dans ces premiers moments de surprise et d'horreur? Une blessure peut être hideuse sans être mortelle, ni même très grave. Il lui avait bien paru que cet homme était mort, mais était-il médecin pour juger sûrement? Il s'impatienta après la mèche qui charbonnait encore et murmura « Mais cette lampe empoisonne !» Puis, se rappelant une manière de dire habituelle au docteur Socrate et dont il ignorait l'origine, il la répéta mentalement. Cette lampe pue comme 36 000 charretées de diable. Les exemples lui reviennent à l'esprit de plusieurs suicides manqués. Il se rappelle avoir lu dans un journal qu'un mari, après avoir tué sa femme, s'était tiré comme chevalier un coup de revolver dans la bouche et n'avait réussi qu'à se fracasser la mâchoire. Et il se rappela qu'à son cercle, après un scandale de jeu, un sportsman connu, ayant voulu se brûler la cervelle, s'était fait sauter l'oreille. Ces exemples s'appliquaient au cas de chevalier avec une exactitude frappante. S'il n'était pas mort, Il désirait, espérait contre toute évidence que ce malheureux respirât encore et pût être sauvé. Il songeait à chercher des linges et à faire des premiers pansements. Pour examiner de nouveau l'homme étendu dans l'antichambre, il souleva trop brusquement la lampe encore mal allumée et l'éteignit. Alors, surpris par les ténèbres subites, il perdit patience et s'écria « La rose !» En la rallumant, il se flattait de l'idée que Chevalier, porté à l'hôpital, reprendrait connaissance, vivrait. En le voyant déjà debout, juché sur ses longues jambes, criant, toussant, ricanant, il désirait moins ardemment cette guérison. Il commençait même à ne plus la souhaiter, à la trouver importune et désobligeante. Il se demandait avec inquiétude, dans un véritable malaise, que reviendrait-il faire en ce monde, le sombre cabot? Rentrerait-il à l'Odéon? Promènerait-il dans les couloirs sa grande cicatrice? Faudrait-il le voir rôder encore autour de Félicie? Il approcha du corps, la lampe allumée, et reconnut la plaie livide et sanguinolente dont les contours irréguliers lui rappelaient l'Afrique de ses cartes d'écolier. Visiblement, la mort avait été instantanée, et il ne comprenait pas comment il avait pu en douter un moment. Il sortit de la maison et se mit à marcher à grands pas dans le jardin. L'image de la blessure flottait devant ses yeux comme l'impression d'une lumière trop vive. Elle allait et grandissait. Elle formait dans la nuit, sur le ciel noir, un continent pâle d'où il voyait jaillir éperdu des négrillos armés de flèches. Il jugea que la première chose à faire était d'appeler Madame Simoneau, qui demeurait tout près, sur le boulevard Binot, dans la maison du café. Il ferma soigneusement la porte de la grille et alla chercher la femme de ménage. Sur le boulevard, il retrouva le calme de l'esprit et des sens. Il s'accommoda de l'événement. Il acceptait le fait accompli, mais il chicanait la destinée sur les circonstances. Puisqu'il fallait un mort, il consentait à ce qu'il y en eût un, mais il en aurait préféré un autre. Il éprouvait à l'égard de celui-ci un sentiment de dégoût et de répulsion. Il se disait vaguement « Oh, j'admets un suicide. Mais à quoi bon un suicide ridicule et déclamatoire? Cet homme ne pouvait-il se tuer chez lui? Ne pouvait-il, si sa résolution était inébranlable, l'exécuter avec une vraie fierté, d'une façon discrète? Oh, c'est ainsi qu'à sa place eût agi un galant homme. On aurait plaint et respecté sa mémoire. » Et il se rappela mot pour mot les paroles que, dans la chambre à coucher, une heure avant le drame, il avait échangées avec Félicie. Il lui avait demandé si elle n'avait pas été un peu avec Chevalier. Il le lui avait demandé non pour le savoir, car il n'en doutait guère, mais pour montrer qu'il savait. Et elle lui avait répondu, indignée, « Lui, ah non, par exemple, tu voudrais pas ?» Il ne la blâmait pas d'avoir menti. Toutes les femmes mentent. Mais il goûtait plutôt la jolie désinvolture avec laquelle elle avait jeté ce garçon hors de son passé. Mais il lui en voulait de s'être donné un bas cabot. Sa délicatesse en était blessée. Chevalier lui gâtait Félicie. Mais pourquoi prenait-elle des amants de cette espèce? Elle manquait donc de goût, elle ne choisissait donc pas. Elle faisait donc comme les filles. Elle n'avait donc pas le sang d'une certaine propreté qui avertit les femmes de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elle ne savait donc pas se tenir. Eh bien, voilà ce qui arrive quand on n'a pas de tenue. Et il la chargea du malheur advenu et fut soulagé d'un grand poids. Madame Simoneau n'était pas chez elle. Il la demanda aux garçons du café, aux garçons de l'épicier, aux filles de la blanchisseuse, aux gardiens de la paix et aux facteurs. Enfin, sur l'indication d'une voisine, il la trouva qui mettait des cataplasmes à une vieille dame car elle était garde-malade. Son visage était pourpre et elle puait l'eau-de-vie. Il envoya veiller le mort. Il lui recommanda de le recouvrir d'un drap et de se tenir à la disposition du commissaire et du médecin qui viendraient pour les constatations. Elle répondit, un peu blessée, qu'elle savait, Dieu merci, ce qu'elle avait à faire. Elle le savait en effet. Madame Simoneau était née dans une société soumise aux autorités constituées et qui respecte les morts. Mais lorsque, ayant interrogé M. de Ligny, elle apprit qu'il avait traîné le corps dans l'antichambre, elle ne put lui cacher que cette façon d'agir était imprudente et l'exposait à des désagréments. « Mais vous ne deviez pas, » lui dit-elle. « Quand une personne s'est détruite, il ne faut jamais y toucher avant que la police arrive. » Ligny alla ensuite avertir le commissaire. La première émotion passée, il n'éprouvait aucune surprise, sans doute parce que les événements qui, de loin, lui semblaient étranges, quand ils sont accomplis près de nous, paraissent naturels, comme ils le sont en effet, et se développent d'une façon commune, se décomposent en une succession de petits faits et vont se perdre dans la banalité courante de la vie. Il était distrait de la mort violente d'un malheureux par les circonstances mêmes de cette mort, par la part qu'il y avait et l'occupation qu'elle lui donnait. En se rendant chez le commissaire, il se sentait aussi tranquille et libre d'esprit que lorsqu'il allait au ministère pour y déchiffrer les dépêches. À 9 heures du soir, le commissaire de police pénétra dans le jardin avec son secrétaire et un agent de police. Le médecin de la ville, M. Ibri, arriva au même moment. Déjà, par l'industrie de Madame Simoneau, toujours intéressée aux fournitures, la maison exhalait une violente odeur de phénol et brillait de bougies allumées. Et Madame Simoneau s'agitait dans un pressant désir de procurer aux morts un crucifix et un rameau de buis béni. À la clarté d'une bougie, le médecin examina le cadavre. C'était un gros homme au teint rouge et à la respiration forte qui venait de dîner. « La balle de gros calibre, dit-il, a pénétré par la voûte palatine. » Elle a traversé le cerveau, elle est venue briser le pariétal gauche, emportant une partie de la substance cérébrale et faisant sauter un morceau du crâne. Oh, la mort était instantanée. Il remit la bougie à Madame Simoneau et poursuivit. Des éclats du crâne ont été projetés à une certaine distance. On peut aller retrouver dans le jardin. Oh, je conjecture que la balle était ronde, une balle conique aurait causé moins de ravages. Cependant, le commissaire, M. Jos Arbrissel, grand et maigre, à longue moustache grise, ne semblait ni voir ni entendre. Un chien hurlait devant la grille. « Mais la direction de la blessure, dit le médecin, ainsi que les doigts de la main droite encore repliés, prouvent surabondamment le suicide. » Il alluma un cigare. « Ben, nous sommes suffisamment édifiés, dit le commissaire. « Je regrette, messieurs, de vous avoir dérangé, dit Robert de Ligny, et je vous remercie de la bonne grâce avec laquelle vous avez rempli votre office. » Le secrétaire du commissariat et l'agent de police, conduit par Madame Simoneau, montèrent le corps au premier étage. M. Jossa Ourissel se mordait les ongles et regardait dans le vague. « Un drame de la jalousie, dit-il, rien de plus commun. » Nous avons ici à Neuilly une moyenne constante de morts volontaires. Sur 100 suicides, 30 ont pour cause le jeu. Le reste est dû à des désespoirs d'amour, à la misère ou à des maladies incurables. Chevalier, demanda le docteur Ibri, qui était amateur de spectacle. Chevalier, mais attendez donc, je l'ai vu. Ah oui, je l'ai vu dans un bénéfice aux variétés. « Oh, parfaitement, il récitait un monologue. » Le chien hurlait devant la grille. « Oh, on ne peut s'imaginer, reprit le commissaire, les ravages que le pari mutuel exerce dans cette commune. »« Je n'exagère pas, 30% au bas mot des suicides que je constate sont causés par le jeu. Tout le monde joue ici, autant de boutiques de coiffeurs, autant d'agences clandestines. » Pas plus tard que la semaine dernière, un concierge de l'avenue du Roule a été trouvé pendu dans le bois. Encore, les ouvriers, les domestiques, les petits employés qui jouent ne sont pas réduits à se tuer. Bon, ils changent de quartier, ils disparaissent. Mais un homme établi, un fonctionnaire que le jeu a ruiné, qui est accablé de dettes criardes, menacé de saisie et sous le coup de plainte au parquet, il ne peut pas disparaître. Que voulez-vous qu'il devienne ? Ah, j'y suis ! S'écria le docteur. Il récita le duel dans la savane. On est un peu fatigué des monologues, mais celui-là est très drôle. Vous vous rappelez ? Voulez-vous vous battre à l'épée ? Non, monsieur. Au pistolet ? Non, monsieur. Au sabre, au couteau ? Non, monsieur. Alors je vois ce que vous voulez, vous n'êtes pas dégoûté. Vous voulez le duel dans la savane, bon, j'y consens. Nous remplaçons la savane par une maison à 5 étages. Vous êtes autorisé à vous dissimuler dans le feuillage. Chevalier, disait très drôlement le duel dans la savane. Il m'a beaucoup abusé ce soir-là. Il est vrai que je suis bon public, j'adore le théâtre. Et le commissaire de police n'entendait pas. Il suivait sa pensée. On ne saura jamais ce que le pari mutuel dévore par année de fortune et d'existence. Le jeu n'a jamais ses victimes. Quand il leur a tout pris, il reste leur unique espérance. En effet, par quel autre moyen peut-on en espérer ? Il s'arrêta de parler, tendit l'oreille au cri lointain d'un camelot, se jeta sur l'avenue à la poursuite de l'ombre fuyante et glapissante, l'appela, lui arracha un journal de course qu'il déploya sous un bec de gaz pour y chercher des noms de chevaux, Fleur des Pois, La Châtelaine, Lucrèce. Puis l'œil hagard, les mains tremblantes, stupide assommé, il laissa tomber la feuille. Son cheval ne gagnait pas. Et le docteur Ilbry, en l'observant de loin, songeait que, médecin des morts, il pourrait bien être appelé un jour a constaté le suicide de son commissaire de police. Il se déterminait par avance à conclure autant que possible à la mort accidentelle. Tout à coup, saisissant son parapluie, « Allez, je file, on m'a donné pour ce soir une place à l'opéra comique. Ce serait dommage de la perdre. » Et avant de quitter la maison, Ligny demanda à Madame Simoneau, « Et où l'avez-vous mis ?»« Dans le lit, » répondit Madame Simoneau. C'était plus convenable. Il ne fit point d'objection et, levant les yeux sur la façade de la maison, il vit aux fenêtres de la chambre à coucher, à travers les rideaux de mousseline, la lueur des 2 bougies que la femme de ménage avait allumées sur la table de nuit. « On pourrait peut-être, dit-il, faire venir une religieuse pour le veiller. Oh, « C'est inutile, répondit Madame Simoneau, qui avait invité des voisines, et commander son vin et son fricot. Oh, c'est inutile, je veillerai moi-même. » Ligny n'insista pas. Le chien hurlait encore devant la grille. En regardant à pied la barrière, il vit sur Paris une lueur rouge qui remplissait tout le ciel. Au faîte des cheminées, les tuyaux se dressaient, grotesques et noirs, devant cette brume ardente et semblait regarder avec une familiarité ridicule l'embrasement mystérieux d'un monde. Les rares passants qu'il rencontra sur le boulevard allaient tranquillement, sans lever la tête. Bien qu'il sût que, dans les murs des villes, souvent l'air humide reflète les lumières et se colore de cette lueur égale qui ne palpite pas, il s'imaginait voir le reflet d'un immense incendie. Il acceptait sans réflexion que Paris s'abîmât dans une conflagration prodigieuse. Il trouvait naturel que la catastrophe intime à laquelle il était mêlé se confondît avec un désastre public et que cette nuit enfin fut pour tout un peuple, comme pour lui-même, une nuit sinistre. Ayant très faim, il prit une voiture à la barrière et se fit conduire à une taverne de la rue Royale. Dans la salle lumineuse et chaude, il ressentit une impression de bien-être. Après avoir fait son menu, il ouvrit un journal du soir et vit, dans le compte-rendu des chambres, que son ministre avait prononcé un discours. En parcourant ce discours, il étouffa un petit rire. Il se rappelait certaines histoires contées au Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères était amoureux de Madame de Neuil, cocotte vieillie, haussée par la rumeur publique à l'état d'aventurière et d'espionne. Il essayait, disait-on, sur elle, les discours qu'il devait prononcer devant le Parlement. Ligny, qui avait été un peu l'amant autrefois de Madame de Neuil, se figurait l'homme d'État en chemise, récitant à son ami cette déclaration. Non, certes, je ne méconnais pas les justes susceptibilités du sentiment national, résolument pacifique, mais soucieux de l'honneur de la France, le gouvernement saura, etc., etc. Et cette vision le mettait en gaieté. Il tourna la page et lut « Demain, l'Odéon, première représentation à ce théâtre de la nuit du 23 octobre 1812, avec messieurs Durville, Maury, Romilly, Destrée, Vicard, Léon Klim, Valroche, Amand, Chevalier. » Le lendemain, à 1 h, au foyer du théâtre, on répétait la grille pour la première fois. Une lumière triste s'amortissait sur les pierres grises de la voûte, des tribunes et des colonnes. Dans la majesté maussade de cette pâle architecture, sous la statue de Racine, les acteurs principaux lisaient leur rôle, qu'ils ne savaient pas encore, devant Pradel, directeur du théâtre, Romilly, directeur de la scène, et Constantin Marc, auteur de la pièce, assis tous trois sur un canapé de velours rouge, tandis que, d'une banquette reculée dans un entreclonnement, s'exhalaient les haines attentives et les jalousies chuchotantes des actrices sacrifiées. L'amoureux, Paul Delage, déchiffrait péniblement une réplique. « Je reconnais le château, mur de briques, au toit d'ardoise, le parc où j'ai si souvent enlacé, sur l'école des arbres, son chiffre est le mien, l'étang dont les eaux endormies. » Pagette reprenait. « Oh, craignez, Emery, que le château ne vous reconnaisse pas, que le parc ait oublié votre nom et que les temps murmurent, mais quel est cet étranger ?» Mais elle était enrhumée et lisait sur une copie pleine de fautes. « Ne restez pas là, Fagette, c'est le pavillon rustique, » dit Romilly. « Mais comment voulez-vous que je sache ? Bah, on a mis une chaise. »« Que les temps murmurent, quel est cet étranger ?» Mademoiselle Nanteuil, à vous. Ah, où est donc Nanteuil? Nanteuil! Nanteuil parut, emmitouflé dans ses fourrures, son petit sac et son rôle à la main, blanche comme un linge, les yeux battus, les jambes molles. Elle avait passé une nuit pleine d'épouvante. Tout éveillée, elle avait vu le mort entrer dans sa chambre. Elle demanda, par où est-ce que j'entre? Par la droite. C'est bon? Et elle lut. Mon cousin, je me suis éveillée toute joyeuse ce matin. Oh, j'en sais pas la cause, pourriez-vous me la dire? De là, je lus sa réplique. Oh, c'est peut-être Cécile par une permission spéciale de la Providence ou de la destinée. Le Dieu qui vous aime vous laisse le sourire à l'heure des larmes et des grincements de dents. Nanteuil, tu passes, ma mignonne, dit Romilly. De là, efface-toi un peu pour la laisser passer. Nanteuil passa. Des jours terribles, dites-vous, Emery? Nos jours sont ce que nous les faisons. Ils ne sont terribles que pour les méchants. Romilly interrompit. De là, efface-toi un peu. Fais attention de ne pas la cacher aux spectateurs. Allez, reprends, Nanteuil. Nanteuil reprit. Des jours terribles, dites-vous, Emery? Mais nos jours sont ce que nous les faisons. Ils ne sont terribles que pour les méchants. Constantin Marc ne reconnaissait plus son œuvre, n'entendait plus même le son de ses phrases bien-aimées qui s'étaient répétées tant de fois à lui-même dans les bois du Vivarais. Étonné, stupide, il se taisait. Nanteuil passa gentiment et se remit à lire. Vous me jugerez peut-être bien folle, Emery. Dans le couvent où j'ai été élevé, j'ai souvent envié le sort des victimes. De là, je donna sa réplique, mais il sauta un feuillet de la copie. Mais le temps est superbe, déjà les invités vont et viennent dans le jardin. Il fallut tout reprendre. Des jours terribles, dites-vous, Emery. Et ils allaient, sans s'inquiéter de comprendre, mais attentifs à régler leurs mouvements comme s'ils étudiaient des figures de danse. « Dans l'intérêt de la pièce, il faudra faire des coupures, » dit Pradel à l'auteur consterné. Et de là, je poursuivais. « Ne m'accusez-vous point, Cécile, non, mais j'ai pour vous une amitié d'enfance, une de ces amitiés fraternelles qui donnent à l'amour qu'elles font naître l'apparence inquiétante de l'inceste. » « L'inceste !» s'écria Pradel. « Mais vous ne pouvez pas laisser l'inceste, monsieur Constantin Marc. Le public a des susceptibilités que vous ne soupçonnez pas, et puis vous intervertir l'ordre des deux répliques qui viennent ensuite. L'optique de la scène l'oblige. » La répétition fut interrompue. Romilly, avisant Durville, qui dans une embrasure contait des histoires joyeuses, « Durville, vous pouvez vous en aller, on ne répétera pas le 2 aujourd'hui. » Avant de se retirer, le vieux comédien alla serrer la main à Nanteuil. Jugeant opportun de lui apporter l'expression de sa douloureuse sympathie, il se fit des yeux noyés et commit fait à sa place tout porteur de condoléances. Mais il se les fit bien. Ses prunelles nageaient dans leurs orbites, pareilles à la lune dans les nuées. Les coins abattus de ses lèvres tombaient dans deux plis profonds qui les prolongeaient jusqu'au bas du menton. Il avait l'air vraiment affligé. « Ma pauvre mignonne, soupira-t-il, je te plains, de voir un être pour lequel on a éprouvé un sentiment, avec lequel on a vécu dans l'intimité. De le voir emporté par un coup tragique, c'est rude, c'est terrible. » Il lui tendait ses mains compatissantes. Nanteuil, énervé, serrant dans ses poings son petit mouchoir et son manuscrit, lui tourna le dos et siffla entre ses dents. « Vieil idiot !» Fagette la prit par la taille, l'amena doucement à l'écart au pied de la statue de Racine et lui souffla dans l'oreille. « Ma chérie, écoute-moi, il faut absolument étouffer cette affaire-là. On ne parle pas d'autre chose. Si tu laisses dire le monde, on fera de toi la veuve chevalier pour la vie. » Et comme elle avait du style, elle ajouta « « Je te connais, je suis ta meilleure amie. Je sais ce que tu vaux, mais prends garde, Félicie. Les femmes ont le prix qu'elles se donnent. » Tous les traits de Fagette portèrent. Nanteuil, les joues en feu, retint ses larmes. Trop jeune pour posséder ou même souhaiter la prudence qui vient aux comédiennes célèbres quand elles sont en âge de passer femme du monde, elle était pleine d'amour-propre et depuis qu'elle l'aimait, elle avait envie d'effacer de son passé toute inélégance. Elle sentait que Chevalier, en se suicidant pour elle, avait agi publiquement à son égard avec une familiarité qui la rendait ridicule. Ne sachant pas encore que tout s'oublie et se perd au cours rapide des heures, que toutes nos actions coulent comme l'eau des fleuves entre des rivages sans mémoire, elle songeait, irritée et triste, au pied de Jean Racine, qui entendait ses douleurs. « Regarde-la donc !» dit Madame Marie-Laure au jeune de l'âge. « Elle a envie de pleurer. Je la comprends, un homme s'est tué pour moi. J'en étais très ennuyé aussi, c'était un conte. »« Reprenons !» dit Pradel. « Allez, mademoiselle Nanteuil, allons, donnez votre réplique. » Et Nanteuil. « Mon cousin, je me suis éveillé tout joyeux ce matin. » Soudain, Madame Doulce parut. Grande et douloureuse, elle laissa tomber ses mots. Oh, une bien triste nouvelle, le curé lui refuse l'entrée de son église. Chevalier n'ayant plus de parents, hors une sœur ouvrière à Pantin, Madame Doulce s'était chargée de commander l'enterrement aux frais des comédiens. On l'entourait, elle reprit. Oui, l'église le repousse comme un maudit, mais c'est affreux. « Pourquoi ?» demanda Romilly. Madame Douce répondit très bas et comme à regret. « Parce qu'il s'est suicidé. »« Il faut arranger ça, dit Bradel. Remy montra de l'empressement. Le curé me connaît, dit-il. C'est un brave homme. Je vais donner un coup de pied jusqu'à Saint-Étienne-du-Mont et je serai bien surpris si... Madame Nous secoua tristement la tête. Oh, tout est inutile. Il faut pourtant que nous ayons un service religieux, dit Romilly, avec l'autorité d'un directeur de scène. Certes, dit Madame Nous. Madame Marillot, agitée, pensait qu'on pouvait forcer les prêtres à dire une messe. Restons calmes, dit Bradel en caressant sa barbe vénérable. Sous Louis XVIII, le peuple enfonça les portes de Saint-Roch, fermées au cercueil de Mademoiselle Raucourt. Les temps et les circonstances sont autres. Ils ont de moyens plus doux. Constantin Marc, voyant, plein de regrets, sa pièce abandonnée, s'était approché lui aussi de Madame Dulce. Il lui demanda « Mais pourquoi voulez-vous que Chevalier soit béni par l'Église ?» Pour ma part, je suis catholique. Chez moi, ce n'est pas une foi, c'est un système. Et je considère comme un devoir de participer à toutes les pratiques extérieures du culte. Je suis pour toutes les autorités, pour le juge, pour le soldat, pour le prêtre. Je ne puis donc être suspect de favoriser les enterrements civils, mais je ne comprends guère que vous obstiniez à offrir au curé de Saint-Étienne-du-Mont un mort qu'il repousse. Pourquoi voulez-vous donc que ce malheureux chevalier aille à l'église ? Pourquoi ? Répondit Madame Douce, mais pour le salut de son âme, et parce que c'est plus convenable. Non, ce qui serait convenable, répliqua Constantin Marc, ce serait d'obéir aux lois de l'église qui excommunie les suicidés. Monsieur Constantin Marc, avez-vous lu les soirées de Teuilly ? Demanda Pradel, qui était grand bouquineur et liseur. Vous n'avez pas lu les soirées de Neuilly par M. Le Fongeret ? Non, vous avez eu tort. C'est un livre curieux qu'on trouve parfois encore sur les quais. Il est orné d'une lithographie d'Henri Monnier représentant, je ne sais pas pourquoi, Stendhal en caricature. Fongeret est le pseudonyme de deux libéraux de la Restauration, Dittmer et Cavé. Cet ouvrage se compose de comédies et de drames qui ne peuvent être joués, mais qui contiennent des scènes de mœurs fort intéressantes. Vous y verrez comment, sous le règne de Charles X, un vicaire d'une des églises de Paris, l'abbé Mouchot, refusa d'enterrer une dame pieuse et voulut à toute force enterrer un athée. Madame d'Hautefeuille était pieuse, mais elle possédait des biens nationaux. Elle mourut administrée par un prêtre janséniste. C'est pourquoi, après sa mort, elle ne fut pas reçue par l'abbé Mouchot dans l'église où elle avait passé sa vie. Et en même temps que Madame d'Hautefeuille, sur la même paroisse, un gros banquier, M. Dubourg, se laissa mourir. Et par son testament, il avait ordonné qu'on le portât directement au cimetière. « Ah, c'est un catholique !» pensa l'abbé Mouchot. « Il nous appartient !» Aussitôt, il fit un paquet de son étole et de son surplus, courut chez le mort, lui donna l'extrême onction et l'amena dans son église. « Eh bien, répondit Constantin Marc, ce vicaire était un excellent politique. Les athées ne sont pas pour l'église des ennemis redoutables. Ce ne sont pas des adversaires. Ils ne peuvent pas élever une église contre elle et ils n'y songent pas. Il y a eu de tout temps des athées parmi les chefs et les princes de l'église. » Et plusieurs d'entre eux ont rendu à la papauté d'éclatants services. Au contraire, quiconque ne se soumet pas strictement à la discipline ecclésiastique et rompt sur un point avec la tradition, quiconque oppose une foi à la foi, une opinion, une pratique à l'opinion reçue et à la pratique commune, est une cause de désordre, une menace de péril et doit être extirpé. Le vicaire Mouchot l'avait compris. Il fallait en faire un évêque et un cardinal. Madame Nouls avait eu l'art de ne pas tout dire à la fois. Elle ajouta « Oh, mais je ne me suis pas laissé abattre par la résistance de monsieur le curé. J'ai prié, j'ai supplié. » Et il m'a répondu « Nous sommes respectueusement soumis à l'ordinaire, à les alertes chevêchées. Je ferai ce que mon seigneur m'ordonnera. » Alors il ne me reste plus qu'à suivre ce conseil. Je cours à l'archevêché. Travaillons, dit Pradelle, remis à plein Nanteuil. Nanteuil, alors, Nanteuil, reprends toute la scène. Et Nanteuil reprit. Mon cousin, je me suis éveillée tout joyeuse ce matin. Ce qui rendait difficile les négociations du théâtre avec l'Église, c'était l'éclat donné par les journaux au suicide du boulevard de Villiers. Les reporters en avaient publié toutes les circonstances et, comme le disait M. l'abbé Mirabel, second vicaire de l'archevêque, au point où en étaient les choses, ouvrir à chevalier les portes de sa paroisse, c'était publier le droit des excommuniés aux prières de l'Église. D'ailleurs, M. Mirabel, qui se montra dans cette affaire plein de sagesse et de prudence, indiqua la voie. Vous comprenez bien, dit-il à Madame Douce, que ce n'est pas l'opinion des journaux qui peut nous toucher. Elle nous est absolument indifférente et nous nous inquiétons en aucune manière de ce que 50 feuilles publiques disent de ce malheureux jeune homme. Que les journalistes aient servi ou trahi la vérité, c'est leur affaire et non la mienne. J'ignore et je veux ignorer ce qu'ils ont écrit. Mais le fait du suicide est notoire. Vous ne pouvez le contester. Il conviendrait maintenant d'examiner de près, avec les lumières de la science, les circonstances dans lesquelles ce fait a été accompli. Ne vous étonnez pas que j'invoque ainsi la science. Elle n'a pas de meilleur ami que la religion. Or, la science médicale peut nous être d'ici d'un grand secours. Vous allez tout de suite le comprendre. L'Église ne retranche de son sein le suicidé qu'en tant que le suicidé constitue un acte de désespoir. Les fous qui attendent à leur vie ne sont pas des désespérés, et l'Église ne leur refuse point ses prières. Elle prie pour tous les malheureux. Ah, s'il pouvait être établi que ce pauvre enfant a agi sous l'influence d'une fièvre chaude ou d'une maladie mentale, si un médecin était à même de certifier que cet infortuné ne jouissait pas de sa raison lorsqu'il se détruisit de ses propres mains, le service religieux serait célébré sans obstacle. Ayant recueilli ces paroles de l'abbé, Madame Tools courut au théâtre. La répétition de la grille était terminée. Elle trouva Pradelle dans son cabinet avec deux jeunes actrices qui lui demandaient l'une un engagement et l'autre un congé. Il refusait, conformément à son principe, de ne jamais accueillir une demande qu'après l'avoir d'abord rejetée. Il donnait ainsi du prix aux moindres choses qu'il accordait. Ses yeux luisants et sa barbe de patriarche, ses façons à la fois amoureuses et paternelles, le faisaient ressembler à Lot, tel qu'on le voit entre ses deux filles dans les estampes des vieux maîtres. Posée sur la table, une amphore de carton doré aidait à l'illusion. Non, ce n'est pas possible, disait-il à chacune. Ce n'est vraiment pas possible, mon enfant. Enfin, revenez demain. Après les avoir congédiés, il demanda tout en signant des lettres. Eh bien, Madame Nouls, quelle nouvelle? Constantin Marc, survenu avec Nanteuil, s'écria précipitamment. Mais des corps, monsieur Pradelle! Puis il décrivit pour la 20e fois le paysage sur lequel devait se lever la toile. Au premier plan, un vieux parc. Les troncs des grands arbres du côté du nord sont verdis par la mousse. Il faut qu'on sente l'humidité de la terre. Et le directeur répondit: Oh, soyez sûr qu'on fera tout ce qu'il sera possible de faire et que ce sera très convenable. Eh bien, madame, quelle nouvelle? Il y a une lueur d'espérance, répondit-elle. Au fond, dans une brume légère, dit l'auteur, les pierres grises et les toits d'ardoise fines de l'abbaye aux dames. Oui, parfaitement, parfaitement. Asseyez-vous donc, Madame Douce, je suis à vous. J'ai reçu à l'archevêché le meilleur accueil, dit Madame Douce. Monsieur Bradel, il est nécessaire que les murs de l'abbaye paraissent sourds, profonds et pourtant subtilisés par la brume du soir, hein. Ciel d'or pâle. Monsieur l'abbé Mirabel, reprit Madame Douce, est un prêtre de la plus haute distinction. Monsieur Marc, vous tenez beaucoup à votre ciel d'or pâle? Demanda le directeur. Continuez, Madame Douce, continuez, je vous écoute. Et d'une politesse exquise, Il a fait une délicate allusion aux indiscrétions des journaux. À ce moment, M. Marchegrès, le régisseur, bondit dans le cabinet. Ses yeux verts étincelaient, ses moustaches rouges dansaient comme des flammes. Il parla avec volubilité. « Oh, ça recommence !» Lydie, là, la petite figurante, pousse des cris de putois dans les escaliers. Elle dit que de là, j'ai voulu la violer. C'est bien la 10e fois depuis un mois qu'elle nous recommence cette histoire. Oh, voilà une scie. C'est pas tolérable dans une maison comme celle-ci, dit Pradel. Vous ficherez de l'âge à l'amende. Madame Douce, continuez, je vous prie. Ben, monsieur l'abbé Mirabel m'a expliqué, avec une parfaite clarté, que le suicide est un acte de désespoir. Mais Constantin Marc demanda avec intérêt à Pradel si Lydie, la petite figurante, était jolie. « Mais vous l'avez vue dans la nuit du 23 octobre, elle fait la femme du peuple, qui sur la plaine de Grenelle achète des plaisirs à Madame Raveau. »« Mais il me semble que c'est une très belle fille, » dit Constantin Marc. « Oui, certainement, » répondit Pradel. « Mais elle serait une plus belle fille encore si elle n'avait pas les chevilles comme des poteaux. » Constantin Marc, méditatif, reprit. « Mais de là, je l'ai violée. Oh, cet homme a le sens de l'amour. L'amour est un acte simple et primitif. C'est la lutte, c'est la haine. La violence est nécessaire. L'amour par le consentement mutuel n'est qu'une fastidieuse corvée. » Elle s'écria, très excitée. « Mais de là, j'ai prodigieux. »« Vous n'en voulez pas, » dit Pradel. Cette petite Lydie aguiche mes acteurs dans sa loge, puis tout à coup elle crie qu'on la viole pour qu'on lui donne de l'argent. C'est son amant qui lui a pris le truc et qui touche la galette. Alors vous disiez donc, Madame Douce. Eh bien, après une longue et intéressante conversation, reprit Madame Douce, Monsieur l'abbé Mirabel m'a fait entrevoir une solution favorable. Il m'a donné à entendre que pour lever toutes les difficultés, il suffirait qu'un médecin attestât que Chevalier n'avait pas toute sa raison et n'était pas responsable de ses actes. « Mais, observa Pradel, Chevalier n'était pas fou, il avait toute sa raison. »« Ce n'est pas à nous de le dire, » répliqua Madame Douce. « Et qu'en savons-nous ?»« Non, » dit Nanteuil, « il n'avait pas toute sa raison. » Pradel haussa les épaules. « Après tout, c'est possible. La folie et la raison, c'est affaire d'appréciation. Mais à qui pourrait-on bien demander un certificat ?» Madame Douce et Pradel se rappelèrent successivement trois médecins. Ils ne purent trouver l'adresse du premier, le second avait un mauvais caractère et l'on reconnut que le troisième était mort. Nanteuil dit qu'il fallait s'adresser au docteur Trublet. « Ah oui, c'est une idée !» s'écria Pradel. « Allons demander un certificat au docteur Socrate. Quel jour sommes-nous ? Vendredi ? Ben, c'est son jour de consultation. Nous le trouverons chez lui. » Le docteur Trublet logeait dans une vieille maison au plus haut de la rue de Seine. Pradel emmena Nanteuil dans l'idée que Socrate ne refuserait rien à une jolie femme. Constantin Marc, qui ne pouvait vivre à Paris loin des comédiens, les accompagna. L'affaire Chevalier commençait à l'amuser. Il la trouvait comique, c'est-à-dire appartenante aux comédiens. Bien que l'heure de la consultation fût passée, le salon du docteur était encore plein de gens qui voulaient être guéris. Trublet les renvoya et reçut dans son cabinet les gens de théâtre. Il se tenait devant une table encombrée de livres et de papiers. Contre la fenêtre, un fauteuil articulé s'étalait, infirme et cynique. Le directeur de l'Odéon exposa l'objet de sa visite et il conclut. « Bien, le service de chevalier ne sera célébré à l'église que si vous attestez que ce malheureux garçon ne jouissait pas de toute sa raison. » Le docteur Trublet déclara que le chevalier pouvait bien se passer du service religieux. Adrienne le couvreur, qui valait mieux que lui, s'en est passé. Mademoiselle Monime, après sa mort, eut point de messe, et comme vous savez, on lui refusa l'honneur de pourrir dans un vilain cimetière avec tous les gueux du quartier. Elle ne s'en trouva pas plus mal. Ne vous l'ignorez pas, docteur Socrate, répondit Pradel, que les comédiens sont les plus religieux des hommes. Mes pensionnaires seraient désolés s'ils ne pouvaient assister à la messe de leurs camarades. Ils se sont déjà assurés le concours de plusieurs artistes lyriques et la musique sera très belle. Oh, ça c'est une raison, dit Trublet. Je n'y contredis pas. Charles Boncelet, qui était un homme d'esprit, songea peu d'heures avant sa mort à sa messe en musique. Je connais beaucoup d'artistes de l'opéra, dit-il, j'aurais un pillet Jésus aux truffes. Mais, puisque l'archevêque m'autorise pas, cette fois le concert spirituel, il conviendrait de le remettre à une autre occasion. Pour ce qui est de moi, répliqua le directeur, je n'ai aucune croyance religieuse. Mais je considère que l'église et le théâtre sont deux grandes puissances sociales, et qu'il y a intérêt à ce qu'elles soient amies et alliées. Je ne manque jamais, pour ma part, une occasion de sceller l'alliance. Au prochain carême, je ferai lire par Durville un sermon de Bourdaloue. Je suis subventionné, je dois être concordataire. Et puis, quoi qu'on en dise, le catholicisme est encore la forme la plus acceptable de l'indifférence religieuse. Eh bien, objecta Constantin Marc, si vous voulez montrer de la déférence à l'Église, pourquoi lui poussez-vous de force ou de ruse un cercueil dont elle ne veut pas ? Le docteur parla dans le même sentiment et finit par dire « Bon, mon cher Pradel, ne vous occupez donc pas de cette affaire-là. » Mais alors Nanteuil, les yeux ardents, la voix sifflante « Il faut qu'il aille à l'église, docteur. Signez ce qu'on vous demande. Écrivez qu'il n'avait pas sa raison. Je vous en prie. » Il n'y avait pas que la religion dans ce désir. Il s'y mêlait un sentiment intime et un fond obscur de vieilles croyances ignorées d'elles-mêmes. Elle espérait que, portée à l'église, aspergée d'eau bénite, Chevalier serait apaisé, deviendrait un bon mort et ne la tourmenterait plus. Elle craignait, au contraire, que, privée de bénédictions et de prières, il errât sans cesse autour d'elle, maudit et malfaisant. Et, plus simplement, dans sa peur de le revoir, elle voulait que les prêtres aussi prissent soin de l'enterrer, que tout le monde s'y mît, pour qu'il le fût davantage, autant qu'il était possible et tout à fait. Ses lèvres tremblaient, elle tordait ses mains jointes. Trublet, vieux connaisseur, la regardait avec intérêt. Il avait l'intelligence et le goût de la machine féminine. Celle-ci le ravissait. En observant, sa face camuse brillait de plaisir. Bon, soyez tranquille, mon enfant, il y a toujours moyen de s'entendre avec l'Église. Ce que vous me demandez n'est pas dans mes attributions. Je suis un médecin laïque. Mais nous avons aujourd'hui, Dieu merci, des médecins religieux qui envoient leurs malades aux eaux ecclésiastiques et dont la fonction spéciale est de constater des guérisons miraculeuses. J'en connais un qui loge dans le quartier. Je vais vous donner son adresse. Allez le voir, l'évêché n'a rien à lui refuser. Il arrangera votre affaire. Ah non pas, dit Pradel, vous avez donné vos soins à ce malheureux chevalier, c'est à vous de délivrer un certificat. Romilly approuva. Évidemment, docteur. Vous êtes médecin du théâtre, il faut laver son linge sale en famille. Et Nanteuil tourna vers Socrate un regard de prière. Mais, demanda-t-il, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est bien simple, répondit Pradel. Dites qu'il était, dans une certaine mesure, irresponsable. Alors vous me sollicitez bonnement à parler comme un médecin des tribunaux. Oh non, c'est trop exigé de moi. Vous croyez donc, docteur, que Chevalier était en possession de sa pleine et entière responsabilité morale? Non, je crois au contraire qu'il n'était responsable de ses actes à aucun degré. Alors? Mais je crois aussi qu'il ne différait nullement cela de vous, de moi, de tous les autres hommes. Mes confrères légistes distinguent entre les responsabilités individuelles. Ils ont des procédés pour reconnaître la responsabilité pleine et celle auxquelles il manque un ou plusieurs quartiers. Il est remarquable d'ailleurs que pour faire condamner un malheureux, Ils lui trouvent toujours une pleine responsabilité. Et la leur, elle est donc pleine comme la lune. Et le docteur Socrate développa devant les gens de théâtre étonnés une ample théorie du déterminisme universel. Il remonta jusqu'aux origines de la vie. Et semblable aux Silènes de Virgile, qui barbouillaient du suc des murs, chantaient à des bergers de Sicile et à la naïade églée l'origine du monde, il se répandit en paroles abondantes. Il appelait un malheureux à répondre de ses actes, mais quand le système solaire n'était encore qu'une pâle nébuleuse, formant dans l'éther une couronne légère d'une circonférence 1 000 fois plus vaste que l'orbite de Neptune, il y avait belle lurette que nous étions tous conditionnés, déterminés, destinés irrévocablement, et que votre responsabilité, ma chère enfant, la mienne, celle de chevalier, celle de tous les hommes, était non pas atténuée, mais abolie d'avance. Tout le mouvement causé par des mouvements antérieurs de la matière sont soumis aux lois qui gouvernent les forces cosmiques, et la mécanique humaine n'est qu'un cas particulier de la mécanique universelle. Il montra de la main une armoire fermée. J'ai là en bouteille de quoi transformer, abolir ou exaspérer la volonté de 50 000 hommes. Bon, mais ce ne serait pas de jeu, observa Bradel. Oh, j'en conviens, ce ne serait pas de jeu, mais ces substances ne sont pas essentiellement des produits de laboratoire. Le laboratoire combine, il ne crée rien. Ces substances sont éparses dans la nature. À l'état libre, elle nous enveloppe, elle nous pénètre, elle détermine notre volonté, elle conditionne notre libre arbitre, qui n'est qu'une illusion causée en nous par l'ignorance de nos déterminations. Mais qu'est-ce que vous dites? Demanda Pradel ahuri. Je dis que la volonté est une illusion causée par l'ignorance où nous sommes des causes qui nous obligent à vouloir. Ce qui veut en nous. Ce n'est pas nous, ce sont des myriades de cellules d'une activité prodigieuse que nous ne connaissons pas, qui ne nous connaissent pas, qui s'ignorent les unes les autres et qui pourtant nous constituent. Elles produisent par leur agitation d'innombrables courants que nous appelons nos passions, nos pensées, nos joies, nos souffrances, nos désirs, nos craintes et notre volonté. Nous nous croyons maîtres de nous. Et seulement une goutte d'alcool excite pour les engourdir ensuite ces éléments par lesquels nous sentons et voulons. Constantin Marc interrompit le docteur. Ah, pardon, puisque vous parlez de l'action de l'alcool, je voudrais vous consulter à ce sujet. Je bois un petit verre d'Armagnac après chaque repas. C'est pas trop, dites-moi. Mais c'est beaucoup trop. L'alcool est un poison. Si vous avez chez vous une bouteille d'eau-de-vie, mais jetez-la par la fenêtre. Pradel était pensif. Il estimait qu'en supprimant la volonté et la responsabilité chez tous les hommes, le docteur Socrate lui faisait un tort personnel. Alors vous direz ce que vous voudrez, la volonté et la responsabilité ne sont pas des illusions, ce sont des réalités tangibles et fortes. Je sais à quoi m'engage mon cahier de charges. Et j'impose ma volonté à mon personnel. Et il ajouta avec amertume, moi je crois à la volonté, à la responsabilité morale, à la distinction du bien et du mal. Sans doute, selon vous, ce sont des idées bêtes. Assurément, répondit le docteur, ce sont des idées bêtes. Mais elles nous sont très convenables puisque nous sommes des bêtes. On l'oublie toujours. Ce sont des idées bêtes, augustes et salutaires. Les hommes ont senti que sans ces idées, ils deviendraient tous fous. Ils n'avaient que le choix de la bêtise ou de la fureur. Ils ont raisonnablement choisi la bêtise. Tel est le fondement des idées morales. Quel paradoxe! S'écria Romilly. Le docteur poursuivit avec sérénité. La distinction du bien et du mal dans les sociétés humaines n'est jamais sortie de l'empirisme le plus grossier. Elle a été constituée dans un esprit tout pratique et par simple commodité. Nous ne nous en préoccupons pas pour le cristal ou pour un arbre. Nous pratiquons la différence morale à l'endroit des animaux. Nous la pratiquons à l'endroit des sauvages. Cela nous permet de les exterminer sans remords. C'est ce qu'on appelle la politique coloniale. On ne voit pas non plus que les croyants exigent de leur Dieu une haute moralité. Dans l'état actuel de la société, ils n'admettraient pas volontiers qu'il fût libidineux et se compromît avec des femmes, mais ils trouvent bon qu'il soit vindicatif et cruel. La morale est le consentement mutuel à garder ce qu'on a, terre, maison, meubles, femmes et notre vie. Elle n'implique chez ceux qui s'y soumettent aucun effort particulier d'intelligence ou de caractère. Elle est instinctive et féroce. La loi écrite la nuit de près s'accorde assez bien avec elle. Aussi voit-on que les hommes d'un grand cœur ou d'un beau génie furent presque tous accusés d'impiété et, comme Socrate, fils de Phénarète et Benoît Malon, frappés par la justice de leur pays. Et l'on peut dire qu'un homme qui n'a pas été condamné, tout au moins à la prison, honore médiocrement sa patrie. Il y a des exceptions, dit Bradel. Il y en a peu, répondit le docteur Trublet. Mais Nanteuil suivait son idée. Mon petit Socrate, vous pouvez bien attester qu'il était fou. C'est la vérité, il n'avait pas sa raison, je le sais bien, moi. Sans doute, il était fou, ma chère enfant, mais c'est une question de savoir s'il était plus que les autres hommes. L'histoire tout entière de l'humanité, remplie de supplices, d'extase et de massacre, est une histoire de démons et de furieux. Docteur, demanda Constantin Marc, est-ce que par hasard vous n'admireriez pas la guerre? C'est pourtant une chose splendide quand on y pense. Les animaux se dévorent simplement entre eux. Les hommes ont imaginé de se massacrer en beauté. Ils ont appris à s'entretuer avec des cuirasses étincelantes, sous des casques surmontés de panaches et desquels tombent les crinières peintes en rouge. Par l'usage de l'artillerie et l'art des fortifications, ils ont introduit la chimie et les mathématiques dans la destruction nécessaire. C'est une invention sublime. Et puisque l'extermination des êtres nous apparaît comme le but unique de la vie, la sagesse de l'homme est d'avoir fait de cette extermination une jouissance et une splendeur. Car enfin, vous ne pouvez pas nier, docteur, que le meurtre est une loi de la nature et que, par conséquent, il est divin. À quoi le docteur Socrate répondit « Oh, nous ne sommes que de malheureux animaux, et pourtant nous sommes à nous-mêmes notre providence et nos dieux. Les animaux inférieurs, dont les règnes immémoriaux ont précédé le nôtre sur cette planète, l'ont transformé par leur génie et leur courage. Les insectes ont tracé les chemins, fouillé la terre, creusé les troncs d'arbres et les rochers, bâti des maisons, fondé des cités, changé le sol, l'air et les eaux. Le travail des plus humbles, des madrépores, a créé des îles et des continents. Tout changement matériel produit un changement moral, puisque les mœurs dépendent du milieu. La transformation que l'homme à son tour fait subir à la terre est certes plus profonde et plus harmonieuse que les transformations opérées par les autres animaux. Mais pourquoi l'humanité ne parviendrait-elle pas à changer la nature jusqu'à la rendre pacifique? Pourquoi l'humanité, toute infime qu'elle est, et sera, ne réussirait-elle pas un jour à supprimer ou du moins à régler la concurrence vitale? Et pourquoi n'abolirait-elle pas enfin la loi du meurtre? On peut beaucoup attendre de la chimie. Pourtant, oh, je ne vous réponds de rien. Il est possible que notre race persiste dans la mélancolie, le délire, la manie, la démence et la stupeur, jusqu'à sa fin lamentable dans la glace et les ténèbres. Oh, ce monde est peut-être irrémédiablement mauvais. En tout cas, je m'y serais bien amusé. On y jouit d'un spectacle divertissant et je commence à croire que Chevalier était plus fou que les autres hommes d'avoir volontairement quitté sa place. Nanteuil prit une plume sur le bureau et la tendit trempé d'encre au docteur. Il commença à écrire, ayant été plusieurs fois appelé à donner mes soins à... Il s'interrompit et demanda le prénom de Chevalier. « Aimé, » répondit Nanteuil. « À Aimé Chevalier, j'ai pu constater dans son économie certains troubles de la sensibilité, de la vue et de la motilité, indices ordinaires. » Il alla prendre un livre sur un rayon de sa bibliothèque. « Bon, ce serait un grand hasard si je ne découvrais pas de quoi confirmer mon diagnostic dans ses leçons du professeur Ball sur les maladies mentales. » Il feuilleta le livre. « Eh, tenez, mon cher ami, voici ce que je trouve pour commencer à la 18e leçon, page 389. On rencontre beaucoup de fous parmi les acteurs. Cette observation du professeur Ball me rappelle que l'illustre Cabanis demanda un jour au docteur Esprit Blanche si le théâtre n'est pas une cause de folie. « Vraiment ?» demanda Romy, inquiet. « N'en doutez point, » répondit Trublet. « Mais écoutez ce que dit à cette même page le professeur Ball. Il est incontestable que les médecins sont extrêmement prédisposés à l'aliénation mentale. Eh, rien n'est plus vrai. Parmi les médecins, les prédestinés entre tous sont des aliénistes. Il est souvent difficile de décider lequel est le plus fou du fou de son médecin. On dit aussi que les hommes de génie sont enclins à la folie. C'est certain. Toutefois, il ne suffit pas d'être un imbécile pour être raisonnable. » Il feuilleta un moment encore les leçons du professeur Ball, puis il se remit à écrire « Indices ordinaires de l'excitation maniaque. Et si l'on considère que le sujet était d'un tempérament névropathique, on aura lieu de croire que sa constitution le conduisit à la folie qui, selon les professeurs les plus autorisés, n'est que l'exagération du caractère habituel de l'individu, et il n'est pas possible de lui accorder une entière responsabilité morale. » Il signa et tendit le papier à Pradel. « Voilà qui est innocent et trop vide de sens pour contenir le moindre mensonge. » Pradel se leva. « Oh, croyez bien, cher docteur, que nous vous aurions pas demandé de mentir. Pourquoi ? Je suis médecin, je tiens boutique de mensonges, je soulage, je console. Peut-on consoler et soulager sans mentir ? » Puis regardant Nanteuil avec sympathie, « Oh, les femmes et les médecins savent seuls combien le mensonge est nécessaire et bienfaisant aux hommes. » Et comme Pradel, Constantin Marc et Romilly prenaient congé, « Mais passez donc par la salle à manger. J'ai reçu un petit fût de vieil Armagnac. Vous allez m'en dire des nouvelles. » Nanteuil était resté dans le cabinet du docteur. « Mon petit Socrate, oh, j'ai passé une nuit affreuse, je l'ai vu. Pendant votre sommeil ? Non, non, tout éveillé. Vous êtes sûr que vous ne dormiez pas ? J'en suis sûr. » Il pensa à lui demander si la vision avait parlé. Mais il retint la question sur ses lèvres, de peur de suggérer à un sujet si sensible des hallucinations de Louis qu'en raison de leur caractère impérieux, il redoutait bien plus que les hallucinations de la vue. Il savait la docilité des malades à obéir aux ordres que des voix leur donnent. Renonçant à interroger Félicie, il s'avisa à tout hasard de lever les scrupules de conscience qui pouvaient la troubler. Toutefois, ayant observé que d'ordinaire le sentiment de la responsabilité morale est faible chez les femmes, il n'y fit pas grand effort et se contenta de dire légèrement « Mon cher enfant, il ne faut pas vous croire responsable de la mort de ce malheureux. » Le suicide passionnel est l'aboutissant fatal d'un état pathologique. Tout individu qui se suicide devait se suicider. Vous n'êtes que la cause occasionnelle d'un accident déplorable, assurément, mais dont il ne faut pas exagérer l'importance. Il jugea que c'en était assez sur ce point et s'appliqua tout de suite à dissiper les terreurs dont elle était environnée. Il s'efforça de la persuader par des raisonnements simples qu'elle voyait des images sans réalité, pur reflet de sa propre pensée. Et pour illustrer sa démonstration, il lui conta une histoire rassurante. « Un médecin anglais, lui dit-il, soignait une dame comme vous, très intelligente, qui, comme vous, voyait des chats sous les meubles et était visitée par des fantômes. Il apersuada que ses apparences ne répondaient à rien. Elle le crut et ne se troubla point. Un jour, qu'après une longue retraite, elle reparaissait dans le monde, entrant dans un salon, elle vit la maîtresse de la maison qui lui montrait un fauteuil et l'invitait à s'asseoir. Elle vit aussi dans ce fauteuil un vieux gentleman narquois. Elle se dit que de ces deux personnes, l'une était nécessairement imaginaire, et décidant que le gentleman n'existait pas, elle s'assit dans le fauteuil. En touchant le fond, elle respira. À compter de ce jour, elle ne vit plus aucun fantôme d'homme ni de bête. Avec le vieux gentilhomme narquois, elle les avait étouffés tous sous son séant. Félicie secoua la tête. Mais ça n'a pas de rapport. Elle voulait dire que son fantôme à elle n'était point un vieux monsieur Fallot, sur lequel on s'assied, mais que c'était un mort jaloux qui ne la visitait pas sans dessein. Mais elle craignait de parler de ces choses, et laissant tomber ses bras sur ses genoux, elle se tut. La voyant ainsi accablée et morne, il lui représenta que ses troubles de la vision n'étaient ni rares ni bien graves, et qu'ils se dissipaient promptement, sans laisser de traces. « Moi aussi, ajouta-t-il, j'ai eu une vision. Vous ? Oui, j'ai eu une vision, il y a une vingtaine d'années en Égypte. » Il s'aperçut qu'elle le regardait avec curiosité, et il commença le récit de son hallucination, après avoir allumé toutes les lampes électriques pour dissiper les fantômes de l'ombre. Oui, du temps que j'étais médecin au Caire, chaque année, au mois de février, je remontais le Nil jusqu'à Louxor, et de là, j'allais avec des amis visiter dans le désert les tombeaux et les temples. Mais ces promenades à travers les sables se font à dos d'âne. Et la dernière fois que je me rendis à Louxor, je louais un jeune ânier dont l'âne blanc, Ramsès, était plus vigoureux que les autres. Cet ânier, qui se nommait Sélim, était aussi plus robuste, plus svelte et plus beau que les autres âniers. Il avait 15 ans. Ses yeux doux et farouches brillaient sous un voile magnifique de longs cils noirs. Et son visage brun était d'un ovale ferme et pur. Il marchait pieds nus dans le désert, d'un pas qui faisait songer à ces danses de guerriers dont parle la Bible. Tous ses mouvements avaient de la grâce. Sa gaieté de jeune animal était charmante. En piquant de la pointe de son bâton l'échine de Ramsès, il causait avec moi dans un langage court, mêlé d'anglais, de français et d'arabe. Il parlait volontiers des voyageurs qu'il avait conduits et qu'il croyait être tous des princes ou des princesses. Mais si je le questionnais sur ses parents et sur ses compagnons, il se taisait d'un air d'indifférence et d'ennui. Quand il bandit la promesse d'un bon bachitch, le nasillement de sa voix prenait des inflexions caressantes. Il méditait les rues subtiles et dépensait les 13 heures de prière pour se faire donner une cigarette. S'apercevant qu'il m'était agréable que les âniers traitassent leurs animaux avec douceur, il baisait devant moi Ramsès sur les naseaux et durant les haltes valsait avec lui. Il se montrait parfois ingénieux à obtenir ce qu'il désirait. Mais il était trop imprévoyant pour jamais témoigner la moindre reconnaissance de ce qu'il avait obtenu. Avide de piastre, il convoitait plus ardemment encore les menus objets qui brillent et qu'on peut cacher les épingles d'or, les bagues, les boutons de manchette, les briqueurs nickel. Et quand il voyait une chaîne d'or, son visage s'éclairait d'une lueur de volupté. L'été qui suivit fut le temps le plus dur de ma vie. Une épidémie de choléra avait éclaté dans la basse Égypte. Je courais la ville du matin au soir dans un air embrasé. Les étés du Caire sont accablants pour les Européens. Nous traversions les semaines les plus chaudes que j'eusse encore connues. Et j'appris un jour que Selim, amené devant le tribunal indigène du Caire, venait d'être condamné à mort. Il avait assassiné une enfant de Fella, une petite fille de 9 ans, pour lui voler ses anneaux d'oreilles, et il l'avait jetée dans une citerne. Les anneaux, tachés de sang, avaient été retrouvés sous une grosse pierre dans la vallée des Rois. C'était de ces bijoux sauvages que les Nubiens nomades façonnent au marteau avec des shillings ou des pièces de 40 sous. On me dit que Selim serait certainement pendu parce que la mère de la fillette refusait le prix du sang. La Khédive, en effet, n'a pas le droit de grâce et le meurtrier, selon la loi musulmane, ne peut racheter sa vie que si les parents de la victime acceptent de lui donner de l'argent, une bonne somme en compensation. J'étais trop occupé pour penser à cette affaire. Je m'expliquais facilement que Selim, rusé mais irréfléchi, caressant, insensible, eût joué avec la fillette, lui eût arraché ses anneaux, lui tué et caché. Et bientôt, je n'y songeais plus. Du vieux Caire, l'épidémie s'étendait sur les quartiers européens. Je visitais 30 et 40 malades par jour et je faisais à chacun d'abondantes injections veineuses. Je souffrais de désordre au foie. Oh, j'étais ravagé d'anémie, je tombais de fatigue. Pour ménager mes forces, il me fallait prendre un peu de repos à midi. Je m'étendais, après le déjeuner, dans la cour intérieure de ma maison, et là, je me baignais pour une heure dans cette ombre africaine, épaisse et fraîche comme de l'eau. Et un jour que j'étais couché de la sorte dans ma cour, sur mon divan, au moment où j'allumais une cigarette, je vis venir Selim. Il souleva de son beau bras de bronze la tenture de la porte, s'approcha de moi dans sa robe bleue. Il ne parlait pas, mais il souriait de son sourire innocent et sauvage, et ses lèvres d'un rouge sombre découvraient des dents éclatantes. Ses yeux, sous l'ombre s'assurée des cils, brillaient de désir en regardant ma montre posée sur la table. Alors je pensais qu'il s'était échappé, mais j'en étais surpris. Non que les captifs soient étroitement surveillés dans ces prisons orientales, où les hommes, les femmes, les chevaux et les chiens sont mêlés dans des cours mal closes, sous la garde d'un soldat armé d'un bâton. Mais les musulmans ne sont jamais tentés de fuir leur sort. Selim s'agenouilla avec une grâce suppliante et approcha ses lèvres de ma main pour la baiser, selon la coutume antique. Je ne dormais pas et j'en eus la preuve. Et j'eus aussi la preuve que l'apparition avait été courte. Quand Selim disparut, je remarquai que ma cigarette qui brûlait n'avait pas encore de cendre. « Est-ce qu'il était mort, comme vous l'avez vu ?» demanda Nanteuil. « Non pas !» répondit le docteur. « J'appris quelques jours après que Selim, dans sa prison, tressait de petites corbeilles ou qu'il jouait pendant de longues heures avec un chapelet de boules de verre et qu'aux visiteurs européens, surpris de la douceur caressante de ses yeux, il demandait une piastre en souriant. La justice musulmane est lente. Il fut pendu 6 mois plus tard. Personne, ni lui-même, n'y fit grande attention. J'étais alors en Europe. Et depuis, il n'est pas revenu? Oh, jamais! Nanteuil le regarda, déçu. Oh, j'avais cru qu'il était venu quand il était mort. Mais du moment qu'il était en prison, bien sûr, que vous ne pouviez pas le voir chez vous et que c'était une idée. Le docteur, comprenant la pensée de Félicie, se hâta d'y répondre. « Ma petite Nanteuil, croyez-moi, les fantômes des morts n'ont pas plus de réalité que les fantômes des vivants. » Sans prendre garde à ce qu'il disait, elle lui demanda si vraiment c'était parce qu'il souffrait du foie qu'il avait eu une vision. Il répondit qu'il pensait que le mauvais état des organes digestifs, une fatigue diffuse, une tendance à la congestion, l'avait prédisposé. « Et il y eut, je crois, ajouta-t-il, une cause plus immédiate. Étendu sur mon lit, j'avais la tête très basse. Je la soulevais pour allumer une cigarette et la laissais retomber aussitôt. Cette attitude favorise singulièrement les hallucinations. Il suffit parfois de se coucher la tête renversée pour voir, pour entendre des formes, des sons imaginaires. » C'est pourquoi je vous conseille, mon enfant, de dormir avec un traversin et un gros oreiller. » Elle se mit à rire, comme maman alors, majestueusement. Puis, sautant sur une autre idée, « Dites donc, Socrate, ce sale individu, pourquoi l'avez-vous vu plutôt qu'un autre? Vous lui aviez loué un âne, vous n'y pensiez plus et il est venu. C'est tout de même drôle. Vous me demandez pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Oh, je serais bien embarrassé de vous le dire. Souvent, nos visions, liées avec nos pensées intimes, nous en présentent l'image. Parfois, elles ne s'y attachent en rien et nous montrent une figure inattendue. » Il exhorta de nouveau à ne pas se laisser effrayer par des fantômes. « Les morts ne reviennent pas. Quand l'un d'eux vous apparaît, soyez assuré que vous voyez une imagination de votre cerveau. » Elle demanda, « Mais pouvez-vous me garantir qu'il n'y a rien après la mort ?»« Mon enfant, mais il n'y a rien après la mort qui puisse vous effrayer. » Elle se leva, prit son petit sac et son manuscrit, tendit la main au docteur. « Vous ne croiriez à rien, vous, mon vieux Socrate. » Il la retint un moment dans l'antichambre, lui recommanda de se ménager, de mener une vie calme et rafraîchissante et de prendre du repos. Ah, si vous croyez que c'est facile, dans notre métier, demain j'ai une répétition au foyer, une répétition sur la scène, une robe à essayer. Ce soir je joue. Eh, voilà plus d'un an que je mène cette vie-là.